Alors, donc on est à notre troisième cours sur l'introduction sur la tefila. Je sais pas si on aura besoin d'un quatrième. Donc là maintenant on va parler dans le cours précédent, on a parlé de la tefila, on a expliqué ce que la tefila était de la Torah ou des Chachamim. On a expliqué la machloket qu'il y avait entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide, à savoir est-ce qu'on a une obligation de prier de la Torah ou est-ce que c'est une obligation de Chachamim? On a parlé aussi de l'importance de la Kavana. On a parlé aussi de la Tfila qui venait par les trois patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on a parlé aussi de l'importance de la Kavana. Donc on a donné des techniques pour avoir la Kavana. Pour avoir la Kavana, d'accord, on a expliqué par exemple prier dans une chambre lumineuse, se préparer avant. Donc ça, on en a parlé dans les deux cours précédents. Aujourd'hui, on va parler. On va explorer un peu plus l'importance de la Kavana. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir la Kavana dans la Tfila. En clair, on s'attend à quoi? Et, Bezrat Hashem aussi, on va commencer à développer donc le développement de la Tfila. Ça veut dire comment la Tfila a démarré de ce qu'elle était à l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc on va expliquer tous les changements de parcours qu'il y a au milieu. C'est ce qui va expliquer la différence qu'il y a entre les différents sidourim. Donc, la Kavana, en ce qui concerne la Kavana, donc on a expliqué, on n'arrête pas de parler, on a dit il faut la Kavana, il faut la Kavana, il faut la Kavana. Qu'est-ce que c'est la Kavana? D'accord? Qu'est-ce que c'est la Kavana? La Kavana, c'est qu'explique Maïmonide, ça veut dire que Amit Palel Tsarir chez Kaven, les Pirouches Amilim. Une personne qui prie, il doit donner de l'attention, les Pirouches Amilim, ça veut dire au sens des mots. Ça c'est la Kavana au sens le plus basique. Ça veut dire le sens des mots. On dit des mots, comprend ce qu'ils veulent dire. D'accord? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'il y a dans la Kavana, c'est quoi? C'est comme ce que la Gemara nous raconte, que En Omdim Leit Palel, Ela Mitor Koved Rosh, qu'on démarre sa prière seulement lorsqu'on a la tête calme. Dès qu'on est excité, il faut pas commencer à prier. Quand on commence à prier, il faut avoir la tête calme. Ça veut dire quoi? Explique Maïmonide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim de l'époque, et c'est comme ça qu'on devrait faire aujourd'hui, quand ils sentaient qu'ils avaient une excitation particulière, qu'ils n'étaient pas bien, ou qu'ils avaient quelque chose qui les énervait, ils attendaient. Ils se calmaient d'abord. Ils se préparaient au fait que maintenant, on va prier, on va prier à Kadosh Baruch Hu, et c'est seulement là qu'ils commençaient la tefila. Donc de là explique le commentaire qu'en vérité, on a deux catégories de Kavana. Quand on dit Kavana, on a deux choses, on veut dire deux choses. Et nous, on va essayer de faire au moins une des deux choses. Première chose qu'on veut dire quand je dis la Kavana, c'est-à-dire comprendre la traduction des mots. Par exemple, quand je dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire tu es béni Dieu. Ça c'est premièrement. Mais deuxième sens de la Kavana, ça voudrait dire que quand on prie, il faut réaliser qu'on est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire avoir la tête calme, avoir la tête tranquille et réaliser qu'on est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc il faut ces deux Kavanas-là. Alors, il y en a qui ont plus facilement la première, il y en a qui ont plus facilement la deuxième. D'accord? Quelqu'un que Baruch HaShem, depuis qu'il est petit, il est né dans la Torah. Donc, naturellement, la première Kavana, tu lui dis comprendre la traduction des mots, il n'a pas de problème avec ça. C'est comme s'il lisait en français, donc il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, le deuxième, c'est plus dur. Le deuxième, c'est plus dur. Quand tu lui dis, il faut réaliser constamment que tu es en train de prier devant Dieu, ça peut être plus dur. Il y a des gens chez qui c'est le contraire. Il y a des gens chez qui que c'est évident pour eux que quand ils viennent le matin à la prière, d'accord, ils auraient pu rester dormir. Donc, s'ils sont venus à la prière, évidemment, c'est pourquoi? Ben, c'est pour parler à Dieu. Donc pour eux, c'est évident qu'on est venu pour parler à Dieu. Donc ils se sont déjà préparés à ça. Mais par contre, la Kavana du sens des mots, ça ils ne l'ont pas. Parce que ou ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas la patience, ou ils connaissent pas. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de Kavana dans la Tfila, il nous faut ces deux éléments-là. Il nous faut ces deux éléments. Ça veut dire la traduction des mots et la Kavana générale, qui est d'ailleurs la plus importante. Le deuxième élément que je viens de dire, c'est le plus important. Comme il dit Maïmonide, il continue toujours. Il dit que, en ce qui concerne la kavana du sens des mots, en général, dans toute la tefila, si on n'a pas eu cette kavana, c'est pas grave. Il n'y a que deux endroits dans lesquels cette kavana pose problème. Comme on l'a dit la dernière fois. C'est dans le Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans le premier donc, verset du Shema. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il faut comprendre la traduction des mots. Et sur la première bracha de la Amida. Ça veut dire jusqu'à Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Sur ces deux éléments-là, la première bracha de l'Amida et le Shema Israël, on a l'obligation de comprendre la traduction des mots. Mais écoutez bien ce qu'il dit donc le Maïmonide. Maïmonide, il dit que sur tout le reste de la Tfila, même si on n'a pas le temps, on n'a pas la patience pour comprendre la traduction des mots, bien qu'aujourd'hui c'est traduit, mais on n'arrive pas, on a l'obligation de s'efforcer un maximum pour avoir la kavana générale. La kavana générale, ça veut dire la kavana générale que je suis en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu, réaliser que je suis en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on accorde une grande importance à l'étude avant la tfila. Bien que normalement, la première chose qu'on aurait dû faire le matin, ça aurait dû être la tfila. Comment ça se fait qu'on voit que dans beaucoup d'endroits, on étudie avant la tfila? Pourquoi on étudie avant la tfila? C'est justement pour ça. Pour pas directement, dès que je me lève comme ça, je prie. Vous savez, les choses qu'on fait dès qu'on vient de se lever, on est un peu encore dans le coltard, hein, excusez-moi du terme. Donc, on peut, même si on comprend la traduction des mots, mais on réalise pas vraiment qu'on est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est une des ségoulottes pour ça, c'est quoi? Qui d'ailleurs faisait, la Gemara nous raconte que les chassidim, les premiers chassidim, ils le faisaient. C'était quoi? C'était d'attendre un petit peu avant la tfila, d'étudier quelque chose, de réfléchir, de prendre conscience qu'on va prier devant Kadosh Baruch Hu, et seulement là, on va commencer à faire la tfila.
C'est ça, les psukim des Mishmaraz et tout ce qui est avant?
Non, je n'ai pas encore arrivé à ça. Là, pour l'instant, je parle de la kavana générale. Je ne suis pas encore entré du tout dans les détails. Le sens des mots, on a l'obligation de le faire au moins dans le premier paragraphe, enfin dans le premier verset du schéma, si possible le premier paragraphe, si possible tout le schéma, et dans la Amida, au moins dans la première bracha de la Amida, d'accord ? Mais pour le reste de la tfila, on a besoin d'avoir la kavana générale qu'on est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un il connaît la traduction de Magan Avraham, mais bon il était occupé, il pensait à autre chose. Il fait pas au rattaché à Magan Avraham à Taguibor, il dit, ah, mince, j'ai pas réfléchi à la Kavana. Est-ce qu'il recommence ou recommence pas? Est-ce qu'il recommence l'Amida ou recommence pas l'Amida? Alors, à la base, le Mechaber, donc pour les Sfaradim, il dit dans le Shulchan Aruch, il dit que normalement, on devrait refaire l'Amida pour refaire la première bracha. Le Rama, il dit pour les Ashkenazim, il dit que, puisque de toutes les façons, même si tu vas demander de refaire, s'il a la tête ailleurs, de toutes les façons, ça changera rien, et il n'arrivera pas à avoir la Kavana. Donc, autant ne pas refaire, puisque ce sera bracha levatala, ce sera une bracha en vain. Le Kafar Haïm, qui est venu donc bien plus tard, qui est écrit pour les Sfaradim, il a dit que malheureusement aujourd'hui, les générations sont descendues tellement bas, que malheureusement, même pour les Sfaradim, on doit appliquer la même règle, que celui qui n'a pas eu la Kavana, on va pas lui demander de refaire, parce que s'il va refaire, on ne sait pas s'il aura la Kavana, ça ne changera pas grand-chose. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de compter sur la chazara du Shliar Tibour et de se dire que certainement, lui, au moins, il aura la Kavana.
En espérant que lui aussi, il ait
la Kavana. Non, bon, Shliar Tibour, c'est de la chose particulière, hein, parce qu'il doit rendre quitte tout le monde. Donc, en tout cas, voilà. Donc, bon, ça nous console beaucoup, ce que je viens de dire maintenant. Pourquoi? Parce que même pour quelqu'un qui ne... Bezrat Hashem, on aura des cours pour expliquer le sens des mots. D'accord? Bezrat Hashem. Mais c'est pour nous dire que la tfila qu'on a fait jusqu'à maintenant, même si on ne comprenait pas le sens des mots, puisque de manière générale, qui se lève le matin, qui aurait pu rester dormir, se lève le matin et vient pour prier, il est conscient qu'il est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu, donc c'est déjà considéré comme une kavana dans la tfila, et donc, quelque part, il est quitte, d'accord? Il est quitte à 100% de la tfila. Bien sûr que c'est jamais au top, parce que le top, c'est de faire attention à chaque mot de la tfila, mais c'est déjà ça. D'accord? Donc voilà, donc le matin quand vous venez à la synagogue, même si vous ne comprenez pas le sens des mots, essayez au moins de réfléchir au fait qu'on est en train de prier à Kadosh Baruch Hu, de parler à Dieu. Et ça, d'après la majorité des avis, c'est considéré comme si on a déjà fait la mitzvah de la tfila de la Torah. D'accord? Donc ça c'est déjà un bon point. Ensuite, oui. Alors, le Meiri, il nous raconte la chose suivante. Il nous dit que, à son époque, ça veut dire il y a à peu près 900 ans d'aujourd'hui. D'accord ? Donc sur la Gemara Brachot, il dit comme ça. Il dit qu'à son époque, les gens qui sentaient qu'ils n'avaient pas assez de kavana, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un par exemple qui était troublé, qui était nerveux, etc., ils ne commençaient pas leur tfila. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas à la synagogue, d'accord ? Ils restaient chez eux, ils se calmaient, et c'est seulement après qu'ils démarraient leur tfila. Mais il dit que déjà à son époque, la tendance a commencé à changer puisqu'on s'est rendu compte que si quelqu'un il reste chez lui parce qu'il est énervé, bah, du coup il ne va pas prier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'applique plus cette règle. Et on dit à quelqu'un, même si t'es énervé, c'est pas grave, même si t'es nerveux, même si t'es stressé, tu viens quand même à la synagogue et tu essaies de faire ce que tu peux. Parce que si on va te laisser attendre, on sait pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne dit plus cette règle. Mais on s'efforce néanmoins, dans le chemin pour venir à la synagogue, ou le matin en se levant, d'essayer de réaliser qu'on est en train de prier devant un Kadosh Baruch Hu, pour avoir au moins la kavana générale. Bon. Maintenant, on va expliquer le développement de la tfila. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire comment la tefila a été composée depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. On a déjà expliqué plusieurs fois que le texte de la tuila qu'on a aujourd'hui n'est pas un texte qui a été fait par Moshe Rabbeinu. Et jusqu'à la grande assemblée, on expliquera tout de suite ce que c'est la grande assemblée. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord? On nous disait que chacun priait dans son langage. Comme la Gemara Brachot elle dit, Echad Amarbe ve Echad Amamit. Peu importe si on fait une longue prière ou une petite prière, ou Bilvat chez Kaven Nibo la Shamaim, ce qui compte c'est la Kavana. Ce qui compte c'est de parler à Dieu. De parler à Dieu et de se rendre compte qu'on est en train de parler à Dieu. Et c'est comme ça que ça a toujours été. C'est comme ça que ça a toujours été depuis Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Les Juifs toujours, chacun priait dans son langage. Il n'y avait pas de texte. Chacun parlait à Dieu. Par exemple, le Midrash Tantruma nous raconte que Yosef HaTzadik, avait Yosef en Égypte, avant de rentrer pour travailler chez Potiphar, il faisait une prière de deux lignes. Il disait comme ça, Ribon Haola, maître du monde, Ata ou Bitroni, en toi j'ai mon bitachon, Ata ou Bitroni, c'est toi ma solution, Neni lechen ou le chesed ou rachamim, fasse que je porte toujours grâce, et que j'amène la bonté et la miséricorde, Be'enecha, à tes yeux, ou Be'ene Kol Roaï, et vers tous ceux qui me regardent, ou Be'ene Potiphar Adoni, et que je plaise aussi à Potiphar mon maître. D'accord?
Ça a trop porté d'ailleurs.
Attendez ça là. Donc ça c'était la tefila qu'il faisait. Alors nous quand on entend ça, on dit, attends, nous on fait une tefila, ça nous dure une heure, lui il fait une tefila en deux lignes. Oui, pourquoi? Parce que comme il avait la kavana pendant cette tefila, il parlait à Dieu, c'était kasher, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de... La tefila, c'était quelque chose de personnel. C'était on demand, comme ils disent, d'accord? C'était à la demande. Bon. Ah, on va y arriver. Est-ce que c'est valable aujourd'hui ou pas? Et d'ailleurs, on voit que dans le... Quand on ouvre le Nar, la Bible, quand on ouvre même dans la Torah, on voit que dans plusieurs endroits, on nous raconte des prières que faisaient les patriarches, par exemple. Par exemple, Yaakov, quand il arrivait, si tu me donnes si, je ferai si, ou bien dans le Nar, chaque fois on voit le roi David, enfin tous les Tehillim, c'est quoi les Tehillim? Les Tehillim, c'était les prières du roi David. C'est ça, les Tehillim. Donc on voit bien qu'il y en a qui priaient en deux lignes, et il y en a qui priaient en un Tehillim, d'accord? Vous voyez que donc, tout le Nar, dans beaucoup d'endroits, on retrouve des tefilotes différentes qui ont été composées. Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'ils ont instauré cette filote pour tout le monde. C'est des filotes que, personnelles. C'est des filotes personnelles qui lisaient à Kadosh Baruch.
Des demandes.
D'accord? Des demandes. Maintenant, à quel moment ça a changé? Ça a changé à l'époque de Anshei Knesset HaGedola. À l'époque de Anshei Knesset HaGedola, de la Grande Assemblée, ça veut dire pas longtemps après la construction du deuxième Beth Amikdash, Anshei Knesset HaGedola, là, les Chachamim se sont rendu compte que les gens n'arrivaient plus, ou ils n'avaient plus le temps de parler à Dieu comme il faut, ou ils ne savaient plus formuler des phrases jolies, donc du coup la tefila est en train de devenir une blague. Je ne sais pas si vous imaginez la situation, chacun il vient, il raconte un peu des bêtises, n'importe quoi. Donc c'était pas encore comme ça, mais c'était en train de devenir comme ça. Donc les Chachamim, quand ils ont vu ça, ils ont dit stop. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit stop, on s'arrête là. Donc ils ont décidé de créer un noussar, de créer un texte que tout le monde devra suivre. Enfin, alors avant d'arriver à l'explication du noussar, donc du texte que les Chachamim ont fixé, on a une question intéressante qui est posée, d'accord? C'est, étant donné que tu me dis qu'à l'époque il n'y avait pas de texte pour tout le monde, alors est-ce qu'on avait la Chazara? D'abord, est-ce qu'on priait en communauté? Puisque comment tu veux prier en communauté? Oui, si chacun
y a son texte. Est-ce qu'il y avait Kaddish?
Est-ce qu'il y avait un Kaddish? Est-ce qu'il y avait le Minyan?
Kedusha?
Parce que si un est pris en deux lignes et l'autre il prie en une heure et demie, qu'est-ce qu'on fait?
Mais il n'y a pas de structure.
D'accord? Il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Alors, écoutez bien ce qui est expliqué. D'accord? Ce qui est expliqué, donc au nom du Khatam Sofer, au nom de beaucoup de commentaires, ce qui est expliqué, c'est qu'en vérité, à l'époque, on n'avait pas Kaddish, on n'avait pas de Tfila, et qu'il n'y avait même pas de Minyan. Chacun priait chez lui à la maison.
Pourtant.
Il n'y avait pas. On allait au Beth Amikdash quand on avait besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Mitzvah du Rambam. Mais c'est tout. Éventuellement, il nous explique, peut-être que comme ça a été instauré, que le lundi et jeudi, on devait lire la Torah, donc éventuellement, c'est possible que le lundi, jeudi, les gens essayaient de faire une prière commune. Du style, bon, chacun faisait sa prière, mais ils essayaient de faire... C'est possible. Mais on n'a aucune trace.
Et le Shabbat?
D'accord, on n'a pas de trace historique. Il n'y a pas. Chacun faisait sa tefila. Le Shabbat, on se rassemblait pour lire la Torah. On n'a pas de trace historique de tefila qui a été faite avant. Chacun parlait à Dieu dans son langage. Donc, les Chachamim, à l'époque de Knesset HaGedola, de la Grande Assemblée, ouais. Donc Knesset HaGedola, comme a dit M. Bismuth, c'est Ezra, donc c'est Ezra et toute son assemblée. Eux, ils ont décidé de faire un noussar. Et dans le Noussar qu'ils ont fait, ils ont décidé de faire une structure. C'est quoi la structure qu'ils ont fait? Ils ont dit que quand on prie devant un roi, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Tout d'abord, on dit bonjour. Après, une fois qu'on a dit bonjour, c'est-à-dire d'abord on dit bonjour, d'accord, et on bénit le roi. Une fois qu'on a béni le roi, qu'est-ce qu'on fait? On demande ses besoins personnels. Et avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit merci encore une fois, on lui dit au revoir, on le remercie pour nous, on le remercie en vous remerciant par avance, d'accord, de l'aide qu'il va nous donner.
Salutations.
D'accord. Bon, donc la même, c'est comme ça que les Chachamim ont conçu également la Amida. Comment ils ont conçu la Amida? Les trois premières brachot, c'est les salutations, donc on dit bonjour à Kadosh Baruch Hu et on le bénit, d'accord. Les brachot suivantes, toutes les brachot suivantes sont donc les demandes personnelles qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et les trois dernières brachot, restez maudit Messim Shalom, trois dernières brachot, c'est on dit au revoir à Kadosh Baruch Hu. D'accord, on lui demande d'accepter notre tefila, on le remercie. Donc en d'autres termes, ça veut dire on s'apprête à partir. Donc les Chachamim, c'est comme ça qu'ils ont fixé la structure de la Amida. Il y en a qui disent que même avant que les Chachamim ont fixé la Amida telle qu'on la connaît aujourd'hui, les gens formuler leur tefila de cette manière aussi. C'est-à-dire, ils disaient leur langage, d'accord? Mais ils disaient leur langage, mais c'était de cette structure aussi. Ça veut dire bonjour, demande, au revoir. Bon, possible que oui, possible que non. Ah, c'est possible qu'ils faisaient. En tout cas, nous, on a l'Amida. Dans l'Amida, ça a été fixé comme ça. Après, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que avec tous les tsarotes qu'on a eu, tous les malheurs qu'on a eu, donc malheureusement un peuple juif. Donc du coup, le texte de la Mida, l'ordre s'est un peu embrouillé. Donc on a perdu un peu le texte, on a beaucoup souffert. Donc Agmara nous raconte qu'on a eu un sage qui s'appelait Shimon Apakouli. Donc Shimon Apakouli, qui lui a été capable de refaire les 18 brachot, d'accord? Et les Chachamim ont témoigné que les 18 brachot qu'il a refait, c'était les brachot telles qu'elles étaient à l'époque. Bien qu'on n'ait pas de trace historique, on n'arrivait pas à revenir à la base. Parce que c'était pas écrit. D'accord? C'est passé de maître en élève, de père en fils. Et ça s'est perdu. Et Shimon Apakouli, donc on dit qu'il s'est enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours, il a essayé donc de récupérer ce texte, avec sa tête. Et les Chachamim ont témoigné après que le texte que Shimon Apakouli a donné, c'est le bon texte. C'est le texte qui était à la base. D'accord? Donc il n'y a pas d'écrit. Tout se passait de maître en élève, de maître en élève, de père en fils. Et malheureusement, ça s'est perdu. Mais comme on dit après, comme la Gemara a dit, Shrachum, Vechazar, Vesidrum. Ça veut dire, on les a oubliés. On n'a pas, ça se dit qu'on n'a pas vraiment oublié. On a oublié l'ordre, on a oublié des détails. Et lui, il les a remis en place. D'accord? Et Baruch Hashem, les Chachamim ont témoigné que c'était ça les tefilotes. Bon. Donc, à la base, on avait 18 brachot. Si vous allez compter les brachot de la Mida, vous allez en trouver 19. D'accord? C'est quoi la 19e bracha? La 19e bracha a été rajoutée plus tard. C'est la bracha de la minime et la malchinim, ou la malchinim et la minime, d'accord?
Devant les chrétiens.
On demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas donner d'espoir aux la malchinim, c'est ceux qui rapportent, d'accord, les faillots, comme on dirait. Parce qu'il y avait, c'était une mode à l'époque, malheureusement. Il y avait des juifs, d'accord, qui étaient payés pour être espions et pour aller rapporter. Et donc il y a une bracha particulière qui a été instaurée dans la Mida. On demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas donner aucun espoir et de faire que ces gens-là ne partent de ce monde. Parce qu'ils ont causé beaucoup, beaucoup de tort au peuple juif. Donc du coup, cette bracha est restée dans l'Amida. La Malchinim et la Minim.
D'accord ? Des édimes aussi.
Oui. Ça, c'est la bracha de la Malchinim et la Minim. Donc ça, c'est les 18 brachot, enfin aujourd'hui on en a 19, que les Chachamim ont instauré. Bon. Alors, il y a le Havudram qui nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'une des raisons pourquoi la Knesset Agadola, la Grande Assemblée, a instauré donc un texte, il y a tout d'abord la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la tefila des gens n'était plus ordonnée, c'était en train de devenir une blague, donc on a décidé de standardiser ça. Mais il y a aussi une deuxième raison que l'Avudram nous ramène. Il dit que Akadosh Baruch Hu savait que le Beit HaMikdash allait être détruit, et il a fait comprendre aux sages. Les sages ont réfléchi, ils ont dit « Baruch Hashem, on a le Beit HaMikdash ». Mais le Beit HaMikdash peut être détruit. Or, on sait très bien que si le Beit HaMikdash est détruit, il n'y aura plus de sacrifices. Qu'est-ce qui remplacera les sacrifices? C'est les prières. Et s'il y aura l'exil et que les prières, ça sera chacun, il parle comme il veut. Ils ont eu peur qu'avec le temps, les tefilotes vont être oubliés. Et du coup, on n'aura rien du tout. C'est-à-dire rien qui veut parler à Dieu. Ni il a le temple, avec les sacrifices, ni il a les prières. C'est pour ça qu'ils ont standardisé le texte de la tefila, pour éviter que ça se perde. Et même avec ça, comme on va voir après, même en standardisant, vous voyez bien qu'il y a eu des différences. C'est pour ça qu'on a plusieurs livres de prière. Mais bon, les différences sont minimes, parce que quand un texte est standardisé, c'est difficile après de s'écarter. On peut s'écarter un petit peu, on peut avoir des petites différences, mais de manière générale, le texte reste le même. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit l'Avoudram, c'est qu'en vérité, à l'époque du second Beth Amikdash, les Chachamim, puisqu'ils ont déjà vu un premier Beth Amikdash qui a été détruit, ils se sont dit, apparemment ils se sont dû rendre compte que, pendant que le Beth Amikdash était détruit, le premier Beth Amikdash, ben les Juifs étaient un peu perdus. Ils étaient perdus, ils n'avaient pas de temple, et bon, les gens étaient un peu perdus. Donc ils ont voulu éviter que, si Dieu préserve, le Beth Amikdash soit détruit encore une fois, on soit encore perdu. Et ce serait une des raisons pourquoi ils ont instauré la Amida. Pour ça que nous, aujourd'hui, quand on fait la Amida, c'est comme si qu'on était en train d'offrir un sacrifice. Plus que ça, il continue, ça c'est le Rashbat, il dit la chose suivante. Il dit que, c'est intéressant ça, qu'à l'époque du second Beth Amikdash, mis à part les sacrifices, les gens faisaient la Amida aussi. Ça c'est intéressant, ça on n'avait pas à l'époque du premier Beth Amikdash. À l'époque du premier Beth Amikdash, bah, les gens ils venaient au Beth Amikdash, ils amenaient le sacrifice et c'est tout. Le sacrifice c'était une prière, parce qu'en soi le sacrifice, le fait d'amener un sacrifice c'est une manière de prier à Kadosh Baruch Hu. Mais à l'époque du second Beth Amikdash, depuis que Ezra et son Beth Din, donc la grande assemblée comme on les a appelés, ils ont instauré le texte de l'Amida, et ben du coup ça veut dire qu'à l'époque du second Beth Amikdash, les gens faisaient leur Amida, il y avait des synagogues. Donc c'est là qu'a commencé tout le concept des synagogues, et du Kaddish, et du Minyan, etc.
En même temps que le temple, il y avait des synagogues.
Oui, en même temps que le temple, il y avait des synagogues. Et ça c'était nouveau. Parce qu'à l'époque, on connaissait que le temple. Il n'y avait que le temple. Celui qui voulait prier, il est là à Jérusalem. Et là c'était nouveau, c'est que, à part le temple, on avait des synagogues.
Dans tout le pays, avec
avec le temple, ouais. Et celui qui voulait prier, ben il restait chez lui, il parlait à Dieu. C'est tout. Par là, Dieu, comme on voit dans d'autres cultures, hein. D'autres cultures africaines, ce que vous voulez, qu'on voit, les gens, ils parlent à Dieu. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Ils parlent à Dieu. C'était comme ça. Nous, on était comme ça à l'époque. Après, ça a changé. Donc, c'est là que les synagogues ont commencé à venir. Donc, puisque les synagogues ont commencé à venir, c'est là que le concept de la Chazara a été, entre guillemets, inventé. Pourquoi ? Puisque là, on s'est rendu compte que, du coup, qu'on a standardisé la tuile-là, ben, il y avait des gens qui arrivaient à suivre, il y avait d'autres qui n'arrivaient pas à suivre. On avait des gens qui étaient analphabètes, qui n'étaient pas capables de retenir une Amida.
Il n'y avait pas les livres.
Surtout qu'à l'époque, on n'écrivait pas. Tout devait se retenir par cœur. Donc du coup, on avait des gens qui n'arrivaient pas à retenir. Qui n'arrivaient pas à retenir la Amida. Donc ils essayaient de retenir, mais ils n'arrivaient pas. Des gens qui étaient pas assez intelligents, ou des enfants, ou...
Puis c'était en hébreu.
D'accord, c'était en hébreu. Donc, c'est là que les Chachamim ont instauré la Chazara. Ils ont instauré la Chazara pour, justement, ces personnes-là, qui ne peuvent pas faire la prière. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens qu'il faut venir à la synagogue, même si on ne sait pas lire. Pourquoi ? Parce que le Shliar Tibour, le fait qu'ils répondent Amen, et que au Brachot, donc du Shliar Tibour de la Chazara, c'est considéré comme si ils ont fait l'Amida. C'est ça le concept de la Chazara. Alors après, avec le temps, à l'époque de Maïmonide, il y a eu des sages qui ont voulu annuler la Chazara. Pourquoi ? Puisque, après, avec le temps, le peuple juif est devenu plus savant. Donc les gens savaient faire au moins l'Amida. Donc du coup, la Chazara servait a priori à rien, puisque les gens ils savent lire déjà. D'accord ? Donc il y a des gens qui ont voulu annuler. À l'époque de Maïmonide, il y avait des Chachamim qui voulaient annuler, mais Maïmonide a écrit très sévèrement contre ça, et donc du coup, ça n'a jamais été relancé. Il a écrit très sévèrement que c'est quelque chose que les Chachamim ont instauré, et que pour annuler ça, il faut un Bedin aussi fort que les Chachamim qui ont instauré ça, et que certainement ils avaient d'autres raisons à part les raisons qu'ils nous ont dit, donc ils sont pas là, donc on sait pas pourquoi ils ont instauré. Donc du coup, il a interdit d'annuler. Par contre, Maïmonide a écrit, ça c'était à l'époque donc quand il était en Égypte, ils avaient un problème, c'est que dans certaines communautés en Égypte, pendant la Chazara, on parlait beaucoup. Personne ne répondait Amen.
Comme aujourd'hui.
D'accord. Personne ne répondait Amen. Donc, on était embêtés parce qu'il y avait un problème de Bracha Levatala. Le problème de Bracha Levatala, une Bracha qu'on dit en vain. Et c'est très grave de dire une Bracha en vain. Du coup, le Shler Tzibur, il disait Baruch Atah Hashem, et il n'y a ni Baruch Hu Baruch Shemo, ni Amen. Donc, il a instauré que éventuellement dans les synagogues où on ne répondait pas le Amen, et en semaine, d'accord, on avait le droit de ne pas faire la Chazara. Attention, écoutez bien ce que je dis, pas faire la Chazara, pas la demi-Chazara comme les gens font aujourd'hui. Pas faire du tout la Chazara. D'accord. Et que c'est bon, le fait qu'on a prié ensemble, c'était caché. Bon. Après, avec le temps, d'accord, que des fois les gens étaient très pressés, etc., c'est là qu'on a inventé le concept de la mini-Chazara. La mini-Chazara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shliar Tzibour est pris avec tout le monde, mais il fait les premières brachot à voix haute, et les dernières brachot à voix haute. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est les trois premières et les trois dernières. Ils correspondent au bonjour et au au revoir. Donc, trois premières, trois dernières. Donc, c'est là que les Chachamim ont instauré, donc, il y en a qui ont instauré ce concept de la mini-Chazara, mais ils l'ont instauré uniquement dans les cas de Shat Atrak. C'est quoi chatatrak? Chatatrak, ça veut dire
l'urgence du moment.
Seulement quand il y a une urgence. Il y a une urgence et que quand vraiment on n'a pas le choix. Mais il le déconseille fortement. Il le déconseille très fortement. C'est pour ça qu'il faut toujours s'efforcer de faire la chazara. Chazara, on la saute pas pour un kidouche ou pour un truc comme ça. C'est vraiment quand il y a une urgence que vraiment chatatrak. Mais normalement, on ne saute pas la, on ne saute jamais la chazara. Donc ça, c'est pour le concept de la chazara. Après, il y a la question suivante qui s'est posée. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui n'a pas un livre de prière devant lui, qui est bloqué dans un pays quelque part, il n'a pas de livre de prière? Ça vous est arrivé une fois, je crois, monsieur Gélichan. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est expliqué dans Shulchan Aruch? Ce qui est expliqué dans Shulchan Aruch, c'est que, étant donné qu'on a expliqué que de toutes les façons, ce qui compte dans la tefila, c'est de parler à Kadosh Baruch Hu, et qu'en vérité, le texte a été standardisé, mais c'est seulement pour éviter que les gens racontent n'importe quoi, mais ce qui compte, c'est de parler à Kadosh Baruch Hu. Donc il y en a beaucoup qui disent que si quelqu'un est bloqué et qu'il n'a pas de livre de prière, eh ben c'est beaucoup mieux qu'au lieu de ne pas faire du tout la tefila, il serait mieux qu'il parle à Dieu. Par exemple, après avoir mangé, il dit « Merci Dieu de m'avoir donné à manger ». Et d'après beaucoup d'avis, il s'est rendu quitte avec ça de la mitzvah de Birchet Hamazon et la Torah. Ah oui. Faut pas hésiter de parler à Dieu. Bon, en général, il faut essayer d'apprendre par cœur la tefila de basique, comme le Birchet Hamazon, comme la tefila, etc.
Même en français, on parle, hein.
Même en français, bien sûr, même dans la pensée. Ouais. Même dans la pensée. Même remercier Dieu par la pensée, ça s'appelle aussi s'arrêter, réfléchir, remercier Dieu par la pensée. D'après beaucoup d'avis, on est déjà quitte de la mitzvah de Birchet Hamazon, de la mitzvah de la tefila. Bon, donc du coup, il est déjà 9h30, on n'a pas eu le temps de... On n'est pas encore arrivé au développement qui s'est passé, donc ce qui fait la différence entre les Sidourim d'aujourd'hui. Et le Nusach Arizal, le Nusach Sfarad, le Nusach Ashkenaz, et les différences dans le Nusach Sfarad. Bon, on n'est pas encore arrivé à ça, donc il nous faut encore au moins un cours pour ça. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Voilà.
Une autre question.
Oui.
La kippa, ça a toujours existé?
À l'époque de la Gemara, on mettait la kippa.
Depuis les papes.
À l'époque de la Gemara, on mettait la kippa que pour faire des brachot. Faire les brachot ou pour l'étude. Mais sinon, on n'a pas l'obligation. Mais après, ça a démarré.
C'est quelle époque, ça?
2000 ans. Après, il y a à peu près 500 ans aujourd'hui. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était unanime chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. Pour différencier le peuple juif des autres nations, les Chachamim ont dit qu'il fallait qu'on porte la kippa, donc ils ont rendu ça en tant que minag. Mais c'est un minag qu'on a pris sur nous, que le peuple juif a pris sur soi, de porter la kippa. Et le Shulchan Aruch dit sur ça, pour tout le monde, Sfaradim, Ashkenazim, il n'y a aucune différence. Il dit que puisque le peuple juif a pris sur soi le minag de porter la kippa, donc c'est une force de loi. Donc on a l'obligation de porter la kippa.
500 ans à peu près.
500 ans, ouais. Il n'y a aucune permission aujourd'hui.
C'est pas la kippa, c'est un signe distinctif. Ouais, c'est-à-dire, quand on n'a pas voulu de notre propre gré en faire un,
ils se sont chargés de nous le rappeler.
Non, je sais qu'il y a des rabbinim qui permettent aujourd'hui, surtout pour ceux qui travaillent en dehors des rats d'Israël. Rav Nachman. Oui. Oui, c'est spécial pour lui.
Moi j'ai une question un peu rock'n'roll.
Ouais. Parce que Rav Nachman, quand...
Voilà les conséquences.
Non, parce qu'il y a un début
d'histoire. Il nous dit que sa kippa s'est pas envolée.
Non.
Là, il est parti.
La Gemara, elle raconte comme ça.
Il y a des mauvaises langues.
Elle dit que Rav Nachman, quand il était petit, les astrologues ont dit à sa mère, sans qu'elle aille les voir, hein, ils lui ont dit, ton fils sera un brigand. Alors, elle était angoissée, elle est partie voir les Chachamim. Les Chachamim ont dit à la mère de Rav Nachman, et ils lui ont dit, il faut que tu lui mettes la kippa depuis le plus jeune âge. Et ça va le sauver. Ça va lui amener la ira de Shamim, la crainte de Dieu. Et donc, elle lui a mis la kippa depuis le plus jeune âge. Il avait toujours la kippa. Et lui-même, Rav Nachman, a raconté plus tard qu'une fois, alors qu'il était déjà un certain âge, une fois, il voulait, donc, il a vu un beau fruit sur un arbre, donc il a voulu monter. Et en montant sur l'arbre, sa kippa s'est envolée. Parce que bon, il était accroché à l'arbre, sa kippa s'est envolée, il a pris l'arbre et il a mangé. Et après, il s'est avéré qu'en vérité, il a volé parce que cet arbre-là appartenait à quelqu'un. Et de là, les Chachamim m'ont dit que si sa kippa ne serait pas tombée, il aurait pas fait l'erreur, il aurait réfléchi que peut-être cet arbre appartient à quelqu'un. Donc de là, on voit que la kippa, ça protège, ça amène la crainte de Dieu. Il y avait une raison aussi. C'est les Chachamim, ils l'ont dit parce que bon, comme il avait un antécédent, non, mais il risquait de devenir voleur. Donc à l'époque, on portait pas la kippa.
C'est une question un peu qui va
un peu rock'n'roll.
Qu'est-ce que ça veut dire en fait de louer Dieu?
de
louer Dieu.
Louange. Ah, c'est une bonne question.
Ah, d'accord, ah, oui. Non, mais c'est incroyable.
Alléluia.
D'accord,
ça vient de ce mot-là.
Oui, non, mais j'ai compris. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire quand
donc,
on loue Dieu.
La hola.
Qui nous bénit. Qui nous bénit.
C'est du latin. La hola, c'est quoi?
Donc,
qu'est-ce qu'ils font dans un stade? Oh! Eh ben, c'est ça.
Donc, ta question se découpe en deux parties. Premièrement, à quoi ça sert?
Qu'il nous bénisse, nous, d'accord,
ouais.
On en a besoin, mais lui, est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on le bénisse?
Premièrement, à quoi ça sert? Ouais. Et deuxièmement, quelle forme ça a quand nous, on est en train de bénir Dieu?
Ouais.
D'accord? Alors, bon, ça c'est quelque chose, on va arriver, Bézrat Hashem, mais il faut savoir que de manière générale, la tefila, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Contrairement à un roi. Quand tu as un roi, quand le peuple vient pour louer le roi, il kiffe. C'est son kiff, là, les gens, ils viennent le louer. D'accord? Nous, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos louanges. C'est seulement nous, pour réaliser qu'on a un roi, donc on se met en condition. C'est uniquement pour qu'on nous se mette en condition. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Et ça lui change rien, tout ça. Dieu, il est très bien sans ça. C'est lui qui nous a créé.
Je suis sceptique sur ce que tu viens de dire, parce que, évidemment, toute proportion gardée, puisque lui, c'est Ensof et nous, on est un bout de poussière, je pense quand même que quelque part, entre guillemets, le flatter, entre guillemets, hein, parce que c'est pas le flatter, mais en tous les cas, ça doit lui faire plaisir, puisqu'on est capable de lui faire de la peine, donc on est capable de lui faire plaisir. Donc le fait de lui mettre le tapis rouge et de dire « Ah, le roi, le grand, il y en a que toi, etc. », quelque part, son cœur gigantesque, il doit palpiter un petit peu mieux.
Vous avez raison par rapport au niveau de Elohim. Par rapport au niveau de Elohim, à ce niveau-là, on dit que Dieu, ça lui fait une différence si on faute ou on faute pas. Mais par rapport au niveau de Yudkevavke, c'est écrit, Dieu dit, si tu as fauté, qu'est-ce que tu lui feras? Et si tu as fait une mitzvah, qu'est-ce que tu lui feras?
Que dalle de chez que dalle.
C'est pour nous.
C'est la fille.
Dans la vraie vérité, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour lui.
La vraie vérité. Maintenant, tu veux la vraie vérité.